Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 63 d'un épisode Et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de dialogue en version originale, de traduction de nos points de vue critiques, d'adaptation linguistique. Oula, si vous vous dites déjà qu'on ne parle pas la même langue, il est temps qu'on vous envoie les sous-titres.
Next one.
That's the last one.
Annélie Gond des Fiches du cinéma, en tandem avec Asma El Mardi de Brain Damage. Salut Asma.
Salut.
Cette semaine, nous allons vous faire découvrir les secrets des traducteurs de séries, celles et ceux qui œuvrent parfois un peu trop dans l'ombre pour que vous puissiez goûter au plaisir des séries internationales, quelle que soit leur langue d'origine. Donc. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux professionnels de la profession et non des moindres, Laure-Hélène Césari, auteure de sous-titrage. Bonjour Laure-Hélène.
Bonsoir.
Vous avez travaillé notamment sur Good Behavior, Outcast, Atypical, Here and Now, avec mon super accent anglais, mais c'est pas mon boulot, et Safe House, en ce moment diffusé sur France 3. Avec nous également Tim Stevens, auteur de doublage. Bonjour Tim.
Bonjour.
Vous avez notamment travaillé sur Shameless, Wayward Pines, Feud, Mr. Robot et Legion, dont la saison 2 est en ce moment diffusée sur OCS. Alors j'ai une première question pour tous les deux. On dit donc auteur de sous-titrage, auteur de doublage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement pourquoi cette dénomination et ce que ça implique ? Ah, il va falloir qu'il y en ait un qui se lance.
Alors, on a plusieurs noms. On dit qu'on est des auteurs, des traducteurs, adaptateurs. Parfois même, on parle de tradaptateurs.
Ah oui.
Auteur parce qu'on fait de la création, parce mm-hmm. qu'on joue avec les mots, parce qu'on... On écrit
ouais.
vraiment du texte et aussi parce qu'on est rémunéré en droit d'auteur, mmh. Qu'on touche des droits d'auteur de la SACEM, de la SCAM. Mmh. Et donc, c'est notre dénomination.
Voilà.
Que t'as quelque
D'accord.
chose à ajouter ?
Oui, c'est un statut différent du statut d'intermittent. On est complètement indépendant et c'est ce qui explique aussi peut-être la dénomination différente.
Must be cool. Having siblings from these like exotic places.
It could have been. Mm-mm. If we weren't advertisements for how progressive our parents were.
Feel the change going over me.
So much hatred going around. Feels like the world's falling apart.
It's a brand new day.
It feels like there's something outside of me pushing me off balance.
Because the whole country's a mess right now?
There's a power deep inside of me.
Hi.
Un extrait de la bande-annonce de Here and Now, la dernière série d'Alan Ball diffusée en France sur OCS.
Donc, Laure-Hélène, vous avez travaillé sur le sous-titrage de cette série. Dites-nous comment ça se passe, comment on passe de la version originale à la version sous-titrée française, qui a été d'ailleurs diffusé sur OCS, et quelles sont concrètement les étapes de votre travail, autant avec le diffuseur qu'avec le produit original.
Donc j'ai travaillé sur cette série avec Karine Adjadji en binôme. On a eu plusieurs jeux de vidéo. On a commencé avec une vidéo prélim en noir et blanc avec un watermark. Les effets spéciaux n'étaient pas là. C'est là-dessus qu'on a fait notre opérage qui consiste à découper les sous-titres techniquement et qu'on a commencé à traduire.
Travailler vraiment sur un matériau qui n'est pas du tout ce qu'on voit à l'écran
voilà, terminé. En tout cas pour cette série-là, oui.
Ouais.
On a eu aussi une deuxième vidéo à un moment donné. Alors ça dépendait des épisodes. Parfois on l'a vu en premier, parfois on passait par une autre vidéo préliminaire qui, elle, avait des effets spéciaux mais toujours en noir et blanc. Donc on parlait quand même un petit peu de...
C'est un peu complexe quand même.
Voilà. Pour soit commencer la traduction, soit la terminer. Et la dernière étape étant la simulation, qui est la vérification des sous-titres de l'une et de l'autre, puisqu'on travaille en binôme là-dessus, sur une vidéo qui, elle, était définitive, en couleur, D'accord. avec les effets spéciaux, et celle qui allait être diffusée plus tard.
Donc vous avez un dernier point de vérification.
Oui.
Avec là quand même des images qui seront définitives.
Et les versions en fait divergent de du premier jet jusqu'à la fin, ou est-ce qu'elles restent plus ou moins similaires? Est-ce qu'il y a un travail en fait de réadaptation, de réécriture?
Sur cette série, on n'a pas eu de réadaptation à faire. La seule différence entre le prélim et la deuxième vidéo qu'on a eue en Lorez, ce qu'on appelle comme ça, c'est que parfois certaines voix off étaient pas placées au même endroit. On avait du texte un petit peu en plus, mais c'était vraiment minime. On n'a pas eu de remontage, et ça c'était assez appréciable.
D'accord. Alors Tim, votre travail est un peu différent. Comment ça se passe quand on est auteur de doublage? Et je vous pose un peu la même question. C'est comment s'organise votre travail depuis la VO jusqu'à ce qu'on voit en version française doublée?
Ben nous, on écrit sur une bande qui défile, qui sera lue plus tard par les comédiens. Mmh. En fait, au départ, cette bande est préparée par des détecteurs ou des détectrices qui vont découper l'épisode en scènes et poser le texte anglais. Et nous, on écrit sur cette bande, on traduit et on adapte pour que ce soit à peu près synchrone avec le comédien d'origine. Et c'est pareil, on traduit, on adapte les blagues, les jeux de mots pour que tout le monde à peu près puisse comprendre sans non plus trahir trop l'original. Et ensuite, on a une vérif avec le directeur artistique, c'est-à-dire qu'on lit notre texte devant le directeur artistique qui lui ensuite dirigera les comédiens de doublage.
Ouais. Donc, parce que alors, je crois qu'il faut préciser que les auteurs de doublage ne sont pas les comédiens.
Exactement. On ne fait pas les voix.
Voilà, ne font pas les voix.
Ce qu'on nous demande souvent.
Voilà. Quelle voix vous faites?
Tu fais la voix de qui, toi?
Voilà.
La voix de Jennifer Hart. Toujours.
Ah, toujours. Depuis.
On entend le timbre. Là.
Oui. Ouais. Bah oui.
Et vous n'êtes pas forcément au moment où les comédiens enregistrent.
Pas forcément. C'est mieux d'aller en enregistrement de temps en temps pour voir le genre de phrases qui peuvent passer, ce que les comédiens préfèrent comme genre de réplique. Mais on n'a pas forcément toujours le temps d'aller voir les enregistrements.
J'ai besoin que tu me rejoignes à Allsafe. Les serveurs d'Evil Corp ont encore été piratés, mais c'est grave cette fois. C'est une attaque des DOS.
J'apprécie la plupart des gens ici, mais le principe d'une boîte de cybersécurité qui protège les grosses entreprises, il n'y a rien de pire à mes yeux.
Oui, le peuple se réveille et refuse l'esclavage économique que vous leur imposez.
Le monde est un endroit dangereux, mets-toi ça dans le crâne. Et pas à cause de ceux qui répandent le mal, mais à cause de ceux qui les regardent sans réagir. Imagine que tu puisses faire tomber ne serait-ce qu'un seul conglomérat. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution que le monde ait jamais connue.
Un extrait de la bande-annonce de la saison 1 de Mr. Robot diffusée sur France 2. Tim, vous avez adapté cette série en français et on imagine que c'est pas forcément très simple. Là, il y a quand même tout un univers et un vocabulaire assez technique.
Oui, effectivement. Là, sur Mr. Robot, c'était beaucoup de vocabulaire informatique, sur le hacking. Heureusement, la plupart des termes anglais sont finalement utilisés en français. Après, il faut être sûr de bien les utiliser dans la phrase, d'autant plus que Mr. Robot est une série très réaliste, très crédible et très pointue, contrairement à tout ce qui avait été fait avant au niveau du piratage informatique. Donc on était un peu attendu au tournant parce que les fans ils vont essayer de démonter les théories, voir si c'est possible ou pas, et c'est toujours possible quasiment ce qu'ils font dans la série. Donc voilà, on a travaillé en équipe. Moi j'étais avec Marie Fuchèze et Sylvie André sur cette série. Et ensuite, pendant les vérifs, la chargée de doublage de France Télé veillait au grain aussi. Elle faisait beaucoup de recherches pour être sûre qu'on dise pas trop de bêtises. Mm-hmm. Et en revanche, l'avantage qu'on avait, c'est que pour cette série-là, qui a été achetée assez en retard par rapport à la diffusion américaine, on avait toute la saison 1. Et heureusement, vu les twists qu'il y a dans la série, je vais rien dire au cas où.
Non, il faut pas se tromper.
Voilà, mais heureusement, on avait tout. On avait des images définitives avec... toute l'histoire de la saison 1 en entier.
Mais du coup, vous avez fait des recherches en équipe sur ces termes-là, comment ils sont utilisés, à quel moment, quels sont les, s'il y a d'autres termes en fait auxquels on répond.
On fait des recherches, oui. Heureusement qu'il y a Internet. Heureusement qu'on parfois on peut connaître certaines personnes qui font eux-mêmes du piratage informatique.
Mais c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous vous êtes immergé dans le monde des hackers?
On s'immerge forcément quand on travaille sur une série et quand on travaille à plusieurs. En plus, on crée des bibles, ce qu'on appelle des bibles. Où on note tous les termes récurrents qu'on va utiliser.
Expliquez-nous ce que c'est que la Bible, vous aussi.
Oui, on l'utilise aussi en sous-titrage.
Alors en quoi ça consiste?
C'est comme un lexique en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. On, On liste les personnages, par exemple. On en profite pour décider des tutoiements, des vouvoiements. On inscrit, parce qu'un personnage peut être là dans un épisode et ne plus revenir pendant des épisodes. Et après, on ne se souvient plus. Voilà.
On note. Coup, finalement, Bobby n'était pas mort.
Voilà. On a besoin d'avoir une trace écrite de tout ce qu'on peut, toutes les décisions qu'on peut prendre. Donc,
ce qui existe, par exemple, chez les scénaristes américains.
Voilà. Noter le vocabulaire particulier, le choix d'un mot ou d'un autre.
Pour qu'il y ait une concordance en fait entre tous les travaux.
C'est ça. Puisque généralement, au niveau d'une série, on sera deux, voire trois auteurs. Et que c'est aussi une manière de communiquer. Dès que quelqu'un prend une décision, on en parle aux autres. On le met dans la Bible, c'est acté. On n'échange pas de mail.
C'est l'ensemble non seulement des épisodes.
Mais est-ce qu'il y a un traducteur chef parmi vous tous, en fait, dans les équipes? C'est une question un peu logique, parce que comme vous travaillez en équipe et dans les writers' room, il y a toujours un showrunner. Est-ce que vous avez l'équivalent d'un showrunner, en fait, chez les traducteurs?
Non.
Pas en doublage, non. Pas en sous-titrage non plus, non.
Non.
Donc le directeur artistique, c'est pas lui qui a le dernier mot. Vous pouvez avoir le dernier mot sur un doublage qui correspond pas vraiment à votre traduction ou
Le directeur artistique aura le dernier mot, ou le comédien sur l'enregistrement aussi. Mais la phase de recherche, on l'a fait entre auteurs, en fait.
Donc, enfin, parlons des spécificités, des difficultés. C'est-à-dire qu'à la fois pour le doublage, il y a des histoires de synchronisation. Des histoires de bouche.
Ah oui, c'est que des histoires de bouche, le doublage.
Synchro-labiale, c'est comme ça qu'on l'appelle.
On appelle ça la synchro-labiale, oui. On essaye de
j'ai des restes, comme ça.
Oui, de coller au maximum au mouvement de bouche du comédien ou de la comédienne américain ou américaine pour donner l'illusion qu'il parle français ou elle parle français. C'est plus ou moins réussi selon les séries, selon les épisodes, et les directeurs artistiques ou les comédiens y accordent plus ou moins d'importance aussi. Ça, c'est vraiment notre travail à nous, d'essayer de faire en sorte que ça suive le rythme et que ce soit fluide malgré tout.
Et alors, pour le sous-titrage, c'est d'autres formes de contraintes?
Oui, en fait, on travaille avec un logiciel. Et dans ce logiciel, on fait la partie qui s'appelle le repérage et qui va être de déterminer le point d'entrée du sous-titre et le point de sortie. Donc, c'est vraiment la place, là où il va arriver.
C'est souvent des secondes, deux, trois secondes en général.
Oui, ben, ça dépend. Ça dépend de la phrase. Une phrase un peu longue sera découpée en plusieurs sous-titres. On fait attention aussi au changement de plan. On évite qu'un sous-titre passe le changement de plan. Donc, c'est comme ça qu'on dit ça. Et qu'il soit à cheval. Donc, on préfère en faire deux. Mais parfois, y a des règles. Et puis, on les transgresse aussi pour le bien du programme. Ouais. Et c'est ce repérage, cette découpe qui va nous donner le nombre de caractères auxquels on a droit pour la traduction, pour l'adaptation. Donc on doit rester dans...
C'est assez précis.
Et vous commencez à avoir des automatismes au bout d'un certain moment?
Oui, on voit tout de suite quand on écrit une phrase qu'elle passera pas, qu'elle sera pas lisible, voilà.
Donc, vous faites de la réadaptation, pas de la traduction seulement.
Ah, c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on appelle l'adaptation, puisqu'il faut qu'on arrive à traduire du sens. Et en même temps, il faut que ce soit lisible, il faut qu'on arrive à garder un maximum de détails, en même temps que le sous-titre puisse être lu et non vu.
Et on parle de difficultés, vous travaillez sur des programmes qui sont essentiellement américains, avec leurs propres expressions, leurs propres idiomes. Comment est-ce que vous faites pour réapproprier la culture américaine et la transposer avec notre propre culture, nos propres expressions? Quelles sont vos méthodes de travail? Est-ce que vous avez déjà des expressions que vous avez déjà calquées sur d'autres? Comment ça se passe?
Il y a l'expérience, je pense, qui joue pas mal. Et puis après, Internet est notre ami.
Est-ce que vous l'appelez comme Scully dans X-Files?
On appelle Internet.
C'est ça.
Très belle faute de doublage.
On y reviendra.
Mais oui, on s'en sert énormément pour tout ce qui est argot. Il y a des dictionnaires d'argot.
Urban Dictionary.
Pour le français aussi, parce que parfois on se retrouve à savoir ce que veut dire le terme et puis se retrouver à dire quel terme je vais choisir parmi tous ces le choix qu'on a.
Des fois, on passe une journée à trouver le maximum de synonymes pour pénis que possible. Et on se dit, c'est ça mon métier.
C'est des merveilleuses journées.
C'est ça notre métier.
C'est très beau.
Et vous avez l'impression aussi que, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes attendu au tournant par le public et vous trouvez que le public a de plus en plus d'exigences.
En doublage, j'ai l'impression que la VF sera toujours critiquée de toute façon. C'est l'impression que j'ai. Mais j'ai quand même l'impression que les séries étant de plus en plus pointues, les gens vont s'attendre à ce que ce soit pointu en français aussi. Et après, on vit dans une période où il y a beaucoup de reboots, de remakes. Et par exemple, j'ai travaillé sur une série dérivée de Evil Dead, des films Evil Dead, et j'essayais de respecter le vocabulaire qui avait été utilisé dans le doublage de l'époque.
Ash versus Evil Dead.
Exactement.
Oui. Voilà. Sinon, vous tombez dessus par les fans, quoi, c'est ça.
Oui, je pense
surtout
que...
Surtout avec Bruce Campbell, qui a une énorme base derrière.
Oh, ouais. Et je pense aussi à ceux qui, à tous les traducteurs, de, les auteurs de, pour les mangas, où les fans aussi sont très très exigeants.
Oui. Et alors parlons aussi des difficultés du métier plus généralement, alors liées à son évolution. Je voudrais qu'on évoque, mais on va se contenter d'évoquer le phénomène des fansubbers. Alors est-ce que je vous laisse expliquer ce que c'est?
C'est à nous d'expliquer ce que c'est.
Je vais l'expliquer. En fait, le fansubber, mais ça se fait de moins en moins, je trouve, vu que les méthodes de visionnage de séries aujourd'hui sont de plus en plus légales, sont plus démocratisées. Mais fut un temps, il y a 5, 6, voire une dizaine d'années, dès la sortie en fait de la série américaine, il y avait des traducteurs amateurs qui faisaient des sous-titrages par eux-mêmes et qui les mettaient, qui les proposaient en fait en téléchargement illégal. Donc ça a créé une sacrée concurrence pour votre travail, qui n'était pas nécessairement bien fait en général.
Ouais. Non, généralement même très très mal fait. On va dire
oui, on a vu un beau dernièrement Jean Neige qui se baladait dans les fansubs, c'était très beau.
Oui, donc, enfin, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de concurrence.
Est-ce que pour vous, ça vous a compliqué le travail ou est-ce que ça a changé quelque chose? Quelle a été l'évolution, en fait, d'un point de vue traduction, adaptation, doublage ou sous-titrage pour vous, en fait? Est-ce que ça a changé ces 10 dernières années? Est-ce que vous avez plus de complications dans les deadlines de traduction, etc.?
Je pense surtout que le fansubbing a entaché notre profession. Parce que il véhicule l'idée que n'importe qui peut s'improviser auteur de sous-titrage.
C'est pour ça que je voulais qu'on évoque la question.
Voilà. Donc c'est pas tellement une question de concurrence. Je pense que c'est surtout ça a dévalorisé notre métier. Notre métier qui est quand même mis à mal ces derniers temps. Les tarifs chutent. Les délais sont de plus en plus serrés. On nous demande de plus en plus de faire des tâches qui ne nous sont pas incombées d'habitude pour le même prix. Et voilà, le métier évolue aussi et ça n'a pas aidé à ce qu'il soit vraiment valorisé, reconnu, tout ça.
C'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a une véritable formation en fait derrière vos deux métiers, parce qu'on n'en parle pas généralement. Il y a des masters spécialisés, des ESS. Vous avez fait des longues études quand même d'anglais, donc vous avez un certain bagage sur l'histoire et la culture américaine et britannique. Et du coup, ce que les fansubbers n'ont pas.
Bien sûr, il n'y a pas que les masters pour accéder à ce métier-là. On peut aussi, on peut aussi se former sur le tas avec des professionnels en regardant comment les gens travaillent. Voilà, ça
il faut quand même une base de métier de traduction, je pense, non, quand même pour
certains auteurs n'ont pas ce bagage-là, mais ont un bagage qui est suffisant. En tout cas, parce qu'ils maîtrisent énormément bien les deux langues, le français et l'anglais, en l'occurrence pour les séries américaines ou anglaises. Mais après, c'est quelque chose qu'on peaufine au fur et à mesure de notre expérience.
Mais c'est vrai que ce qui ne s'improvise pas de toute façon, c'est les codes, les restrictions qu'on a, notamment au niveau des sous-titres.
Oui, c'est ça.
Quand on regarde les fansubbers, ce n'est pas du tout respecté. On peut avoir des sous-titres sur 3 lignes avec des gens neige ou avec des fautes. Oui, des jeux de mots intraduisibles. Alors, entre parenthèses, on va expliquer le jeu de mots.
Ah ouais. Ou la porte grince aussi.
Oui, ça, c'est encore autre chose.
C'est pas mal. Bon, et bien alors donc, évoquons aussi les bons côtés du métier. Qu'est-ce qui vous a amené à ça et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire la traduction et en particulier de séries?
Bah, c'est les séries.
Vous étiez tous les deux fans de séries avant d'arriver dans ce métier ou
Moi, oui.
Oui et non, parce que j'ai pas grandi vraiment avec des séries à la télé. C'était plus le ciné, mais c'est vrai que après, je me suis mise aussi. Hein,
et ça a été un, vous avez eu un déclic, en fait, où vous vous êtes dit à un moment, bah, tiens, je veux être traducteur de films ou de séries, je veux faire du sous-titrage, je veux faire de l'adaptation, de doublage.
Moi, je savais que je voulais être traductrice, c'est pour ça que j'ai fait des études d'anglais. Mais je ne connaissais pas ce métier. Et puis un jour, j'ai vu un film, je crois que c'était un Woody Allen, et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui les écrit, ces sous-titres. Mais je veux faire ça, en fait.
C'est marrant, Woody Allen aussi, moi. Ouais. Ah, et ouais. En même temps, moi, j'ai fait des études d'anglais, je savais que je voulais pas être prof, et j'aimais les séries, donc...
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés quand on fait LLCE anglais.
À part prof.
Ou journaliste, j'en suis la preuve, mais... voilà.
Bon, on va écouter en forme d'exemple ou de contre-exemple. Je vais vous faire écouter une petite chose là.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident.
Alors, pourquoi je vous fais écouter ça?
C'est pour la question pour que à Milfran. Que je revive mes 5 ans et demi devant la télé.
C'est là, moi j'étais beaucoup plus vieille que ça. Justement, c'est une question à 3 milliards ou alors à 6 millions de dollars. Hein. C'est The Six Million Dollar Man en version originale, l'homme qui valait 3 milliards en français. J'ai vérifié, c'est-à-dire que ça ne correspond pas non plus au cours du dollar en francs de l'époque. Enfin,
donc,
je ne peux pas parler là, il faudrait m'expliquer en plus que c'était que les francs, tu vois. Bon. Alors il y a ça, et puis, mais ça leur parle pas, ils sont beaucoup trop jeunes. En fait, je suis toute seule avec mon histoire d'homme bio-ionique.
Non, mais tu rigoles, je regardais ça vraiment quand j'étais petite, j'adorais
et
ça.
Et ça t'a jamais choqué, bio-ionique hein?
Bah, si t'es petite, tu vois,
ah, c'est ça,
mot, je
voilà,
le comprends.
C'est pour ça. Et vous, ça vous choque pas?
Bah, si, y a du sel, là.
Il y a du sel, ion, je sais pas.
Non, mais
je comprends pas.
Vous en prie, sauvez-moi.
Mais bionique, sérieux, c'est un mot qui existe?
Non, qui n'existe en fait. Pas, justement. Il n'existe pas. Bionique, ça existe. Mais bio-ionique, c'est une inventeur de doubleur pour faire bionique.
Wow. Ah, voilà, c'est comme le nominated qui est devenu nominé maintenant dans la langue française, qui n'existe pas.
Mais il n'avait pas internet à l'époque.
Il ne pouvait pas
appeler internet.
Bon, alors là, on est en 1975 en France, pour les gens qui étaient nés. Hein. Et bon, c'était juste pour la blague et pour montrer que je pense que quand même que le métier a fait des progrès. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qui vous ont posé problème ou qui était compliqué à traduire, ou vous êtes dit attention.
Ça sent la réflexion.
Quand j'ai fait ma première sitcom.
C'était quoi?
C'était Anger Management. Et c'était un super défi. Et je me suis dit, je vais me vautrer, mais grave. C'était la première. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que peut-être le format, l'obligation de trouver tout le temps des choses qui soient drôles, autres que ce qu'on voyait à l'écran. Il fallait vraiment trouver des jeux de mots, trouver... voilà. Et du coup, je crois que le défi m'a énormément plu parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant et qui était tout nouveau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Mais vous avez jamais... Vous êtes jamais vraiment, on va poser la question, planté en fait sur une expression où vous en êtes rendu compte bien après?
On va pas le dire.
L'erreur est humaine.
Non mais je veux dire, s'il y a quand même des choses.
Tout le monde ne téléphone pas à Internet.
Internet, malheureusement. Personne ne peut être Dana Scully.
Bah là, on n'avait pas de réponse peut-être.
Pardon?
Non, je n'ai rien dit. les anges sont passés l'espace d'un instant.
je crois que vous pouvez pas forcément dire quels sont vos prochains travaux qu'on va voir bientôt
si,
à la télé.
Est-ce qu'on va
parler
pour
ou
la
pas? Il y a des choses très prochaines, non?
La série la plus difficile pour vous d'aujourd'hui, en fait, sur laquelle vous avez travaillé.
Ça,
que ce soit en question de deadline ou
de
texte qui était complexe. Est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment donné du fil à retordre?
Je crois que c'est Atlanta. J'ai malheureusement travaillé que sur le premier épisode, mais j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la série. J'ai vraiment adoré.
C'est une série de concepts, hein, ça
voilà.
Prend du temps à rentrer
et
dedans.
Et je me suis éclatée. vraiment. Mais ça a été le départ a été difficile. C'est beaucoup d'argot.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de slang.
Voilà. Et comprendre, arriver à comprendre vraiment ce qu'ils veulent dire, même si on a un script, parfois on se dit bon, d'accord, ok, j'ai les mots, mais le sens. Est-ce que c'est le bon? Et je crois que c'était un sacré défi que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, relever.
Et vous, Tim?
Bah moi, j'avoue que Mr. Robot, ça se posait là, quand même.
un peu compliqué.
Au niveau de la difficulté technique. Et puis
est-ce que vous êtes devenu un hacker depuis?
Non, mais j'ai quelques tentations parfois, oui.
En tout cas, et un fan de Mr. Robot.
C'est une très bonne série. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a des séries que vous rêvez d'adapter?
Ou que vous auriez aimé adapter?
Ah bah Buffy, c'est trop tard, malheureusement. Mais j'ai vu que Netflix allait produire une nouvelle salve d'épisodes adaptés des Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin, donc ça me déplairait pas du tout de faire ça. Ouais.
Faites un appel.
Je lance un appel.
Y a beaucoup de séries que je regarde et je me dis que j'aimerais pas les traduire, en fait.
Ah, lesquelles?
Quand je regardais Game of Thrones, je me disais...
On en a un petit peu parlé avant cette émission.
Je connais les traductrices et je les respecte énormément parce que c'est un travail de
malade.
Je lui
excuse pas le plier le genou. Je peux pas. Je peux pas excuser le plier le genou en saison 7 qui, normalement, est prêté allégeance. Ça, là, par contre, je le pardonne pas. Le reste, ça va. Mais plier le genou, ça va pas.
Ainsi s'achève l'épisode 63 d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Mille merci à nos invités, Laurelen Cesari et Tim Stevens, à Smaël Mardi de Brenda Madge et merci à la technique. Rendez-vous dans 8 jours pour le bilan sériel de la saison 2017-2018. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one.